La revue de presse internationale, bonjour Camille Magnard.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
Israël a ouvert hier une page inédite de son histoire judiciaire et politique.
Oui, puisqu'hier à Jérusalem s'est ouvert le procès pour corruption, fraude et abus de confiance de Benjamin Netanyahou, qui n'est autre, rappelle le quotidien suisse Le Temps, mais faut-il vraiment le rappeler, que le premier ministre israélien en exercice. Le principal dirigeant du pays, réélu sans cesse depuis près de 20 ans, est donc dans le box des accusés. C'est du jamais vu, comme le souligne le Washington Post. Et les charges sont lourdes, contenues dans trois épais dossiers d'accusation, trois affaires distinctes. Tout est donc réuni pour un procès historique, mais aussi interminable, résume le Jerusalem Post, qui nous explique qu'hier, ce n'était que la première audience introductive d'un marathon judiciaire qui devrait durer des années. La prochaine audience n'est pas prévue avant le 19 juillet et n'allez surtout pas croire qu'elle va permettre d'entrer dans le vif des accusations, des preuves et des témoignages. Il faut dire que c'est la principale stratégie de Benjamin Netanyahou depuis des années, de freiner le bon déroulement de la justice jusqu'à la diluer complètement. Mais cette fois-ci, donc, dit le Jerusalem Post, le premier ministre israélien ne va pas y couper. Il n'a pas pu y couper ce dimanche. Son procès s'est bel et bien ouvert.
Mais pour l'occasion, l'accusé Netanyahou avait savamment orchestré sa communication.
Et le Times of Israel revient sur la prestation du Premier ministre, son arrivée au tribunal entouré de caméras avec des centaines de supporters venus lui apporter son soutien, la photo qu'il a fait publier sur les réseaux sociaux de lui entouré des principaux ministres de son parti, le Likoud, dans l'espace réservé aux accusés dans la salle d'audience. Une manière de garder le contrôle sur la narration, de déjouer le piège des images qui auraient pu le montrer aux abois, acculé, mis en accusation. C'est plutôt lui, Netanyahou, qui s'est offert le luxe d'accuser, poursuit Jacob Majid dans le Times of Israel. 30 minutes de prise de parole préliminaire face au juge où Benjamin Netanyahou a accusé la justice aux mains de l'opposition d'être contre lui, de le harceler depuis des années, de vouloir la chute du Premier ministre, donc comme celle de l'État d'Israël. Une telle charge contre la soi-disant République des juges gauchisants, elle était attendue de la part du dirigeant israélien, mais tout de même, sa virulence hier interroge le journaliste Guidi Veitz de Haaretz, qui y voit une véritable incitation à la haine des juges. Le genre de propos que la mafia italienne répandait à l'époque de l'opération Main Propre dans les années 80 et qui avait conduit, on s'en souvient, à l'assassinat du juge Giovanni Falcone. Cet épisode italien résonne tout particulièrement depuis hier à Jérusalem, insiste Guidi Veitz, selon qui, si Netanyahou s'entête à attaquer l'appareil judiciaire, eh bien tout cela risque fort de s'achever dans le sang.
Mais le même quotidien Haaretz reconnaît aussi que ce procès est une victoire pour Netanyahou.
Oui, c'est un papier d'opinion signé cette fois Gideon Levy, l'une des signatures de Haaretz. Et il nous confirme qu'en réussissant, comme on l'a dit plus tôt, à délayer ce procès à l'extrême dans le temps, en polarisant l'opinion d'une manière très virulente contre ses accusateurs, le Premier ministre signe une magistrale réussite. Son procès, sur lequel il garde la main en termes de communication, va monopoliser l'attention pendant des mois et des mois. Tous les discours politiques vont tourner autour de cela et le reste va pouvoir se passer loin des radars médiatiques. Le reste, en l'occurrence, ça devrait être la poursuite pour des années de l'occupation des territoires palestiniens, de l'apartheid anti-arabe et de la fausse démocratie israélienne, dit donc Gideon Levy, qui déplore aussi que la gauche de son pays se retrouve cantonnée à faire de la lutte contre la corruption son seul cheval de bataille quand elle devrait mener des combats vraiment idéologiques comme la paix, la liberté, la justice, les droits humains ou l'égalité. Voilà donc qui nous confirme que l'opinion est très tranchée en Israël entre ceux qui voient dans le Premier ministre une victime et ceux qui en font l'incarnation du mal. Entre les deux, on trouve des journaux conservateurs comme le Yediot Aharonot, le plus lu du pays, qui dans son édito du jour appelle, je cite, à garder la tête froide et un esprit ouvert dans ce procès tonitruant. Pas facile et difficile à suivre quand on sait que ce même quotidien est directement concerné par les faits reprochés au Premier ministre, accusé d'avoir fait pression auprès d'un diffuseur de presse pour qu'il favorise ce même Yediot Aharonot au détriment des journaux d'opposition, en échange bien sûr d'une couverture favorable de sa personne et de son gouvernement. On comprend mieux dans ce contexte pourquoi le journal insiste aujourd'hui sur le respect de la présomption d'innocence.
Et d'autres dirigeants politiques en accusation, alors cette fois autour du respect des règles de lutte contre la Covid-19.
Et oui, parce que ça fait des mois que des centaines de millions de citoyens sur cette terre s'astreignent tant bien que mal à respecter les règles de confinement ou de simple distanciation qui sont édictées par leurs gouvernants. Alors quand ces derniers sont pris eux-mêmes la main dans le sac de non-respect de leurs propres consignes, eh bien forcément ça a du mal à passer. C'est même devenu quasiment une tendance dans l'actualité mondiale ce week-end. En Autriche, par exemple, d'après la BBC, le président Alexandre Van der Bellen a dû s'excuser publiquement et platement parce qu'il a été pris par la police dans un restaurant de Vienne après l'heure légale de fermeture fixée à 23h. Il a expliqué qu'il était désolé, mais qu'il n'avait pas vu le temps passer pour sa première sortie de déconfinement avec sa femme et ses deux amis. Au Brésil, ensuite, le Guardian nous explique que Jair Bolsonaro, lui aussi président de la République, est vertement décrié par une partie grandissante de la population parce que samedi soir, il a bravé toutes les règles de distanciation et de prudence sanitaire pour sortir dans les rues de Brasilia, acheter un hot dog et une canette de soda. Jair Bolsonaro, qui les a consommés, très fier de son coup au beau milieu de la foule qui, pour certains, criait des slogans à sa gloire, pour d'autres, des cris de réprobation, le traitant même d'assassin pour sa gestion catastrophique de l'épidémie au moment où celle-ci atteint son pic au Brésil avec près de 1000 morts par jour. Enfin, au Royaume-Uni, c'est Boris Johnson qui est dans la tourmente car il s'entête à défendre coûte que coûte son plus proche conseiller Dominic Cummings, dont on a appris la semaine dernière qu'il a bravé le confinement pour aller rendre visite à ses parents à 400 km de Londres. Malgré la tentative de Bojo hier de mettre fin à la polémique, il fait toujours la une des journaux britanniques ce matin. The Eye, par exemple, parle d'un véritable chaos au 10 Downing Street, où Boris Johnson paraît complètement affaibli par le soutien sans nuance qu'il apporte à son indéfendable conseiller de l'ombre. Et The Independent, de résumer le sentiment général avec cette question: pourquoi est-ce que nous, simples citoyens, nous devrions continuer à suivre les règles et nous priver de tout quand le conseiller du Premier ministre, lui, peut suivre son instinct et traverser tout le pays pour aller rendre visite à ses parents?